vous exprimer, poser des questions sur un sujet qui vous préoccupe ou encore donner votre avis sur une situation inquiétante, je vous donne rendez-vous, moi, Marie-Chantal Lumba, dans Parole aux auditeurs, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 11h à 12h et mercredi, de 10h à 11h15, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, un rendez-vous quotidien sur Radio Capi.
Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai été de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'en se rencontrant les deux, je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs, une émission de Radio Capi qui vous permet de prendre la parole et de donner votre point de vue sur les préoccupations quotidiennes et les grands faits marquant l'actualité en RDC. Votre émission 100% interactive de ce jeudi s'intéresse au secteur de la santé, précisément aux infrastructures de santé, les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé publics et privés. Les études menées par les organisations internationales et même par le ministère de la Santé démontrent que le niveau de délabrement de ces infrastructures et leur sous-équipement sont l'une des causes du taux élevé de mortalité en RDC. Quel état de lieu faites-vous de ces infrastructures sanitaires dans vos milieux? Voilà la question. Parole aux auditeurs a invité le docteur Marcel Moukengue-Chaïkoupa. Il est directeur de cabinet du ministre de la Santé. Ce sujet vous intéresse? Vos avis, propositions et questions sont attendues au cours de cette émission. Soyez les bienvenus.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour, docteur Marcel Moukengue-Chaïkoupa.
Bonjour, madame. Bonjour, maman.
Vous êtes directeur de cabinet du ministre de la Santé.
C'est exact.
Aujourd'hui, nous parlons de ce secteur assez complexe, assez difficile en RDC, qui connaît vraiment des grands problèmes. Nous voulons savoir quelle est la politique du gouvernement en matière d'infrastructure sanitaire.
La politique du gouvernement, vous savez, la santé, c'est un droit fondamental de l'être humain. Une finalité sociale, donc vraiment à atteindre. Et dans ce sens-là, il faudrait amener la population donc, à l'amélioration de l'état de santé de la population. Donc, c'est ça la vision du ministère de la Santé, c'est améliorer l'état de santé de la population en rendant disponible les soins de santé de qualité à l'ensemble de la population.
Par rapport à cela, même on a, il y a cela quelques années, on a redécoupé les zones de santé. Donc c'était à 316, maintenant on est passé à 515 zones de santé. C'est peut-être pour rapprocher les populations, mais on voudrait savoir dans le programme du gouvernement, notamment les 5 chantiers, combien de centres de santé ou d'hôpitaux vous comptez construire dans le pays ou réhabiliter?
La situation, c'est que nous avons au total 515 zones de santé. Sur les 515 zones de santé, nous avons 369 pratiquement qui reçoivent un appui à divers niveaux. Il y a 126 zones de santé qui n'ont pas d'appui du tout, qui n'ont pas d'opto général de référence. Donc ça signifie qu'il faudrait planifier donc d'une part la réhabilitation des infrastructures, comme vous l'avez dit. Et puis d'autre part, voir là où c'est nécessaire de construire aussi, là où il y a déficience ou il manque.
Mais ça a déjà commencé, les travaux ont déjà commencé, dans quelle province?
C'est ça. Enfin, de façon générale, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons au niveau des centres de santé, aujourd'hui, nous avons pour l'année 2009, réhabilité, 233 centres de santé.
233 centres de santé
repartis à travers l'ensemble du pays. il y a aussi une construction, comme des réhabilitations plutôt des hôpitaux. Il y a 6 hôpitaux, 7 pratiquement, 7 hôpitaux qui ont été réhabilités et équipés complètement.
Et c'est dans tout le pays, ou bien vous pouvez citer, donner quelques exemples
Par exemple, dans le Bandundu, on a réhabilité pratiquement 6 hôpitaux, donc 5 hôpitaux plus une clinique. On a réhabilité à Matadi, l'hôpital général de Matadi, ça a été réhabilité. Nous pouvons parler aussi des laboratoires. On a réhabilité complètement le laboratoire de référence, un laboratoire de référence pour Kisangani, donc complètement réhabilité et équipé. On a fait la même chose pour le laboratoire de Kananga. On a équipé le laboratoire provincial de Lubumbashi, donc au niveau du Katanga. Il y a eu aussi 47 pratiquement maternités qui ont été réhabilitées. Donc, à travers l'ensemble des pays.
Est-ce que vous avez des chiffres au total? Il y a combien de structures sanitaires dans le pays que le ministère prend en charge et compte réhabiliter?
Si vous m'avez bien suivi, je vous ai dit qu'il y a...
Vous avez parlé des zones de santé.
Des zones de santé.
Mais est-ce que vous avez des chiffres? Combien vous comptez...
Bon, partons de la base. C'est-à-dire, nous avons au total 8000, pratiquement 226 centres de santé. Comme vous l'avez dit, avec tout ce que nous avons connu comme situation, ces centres de santé sont en situation délabrée. Donc, des efforts sont faits pour arriver à réhabiliter ces centres de santé. Je vous ai dit, par exemple, que pour 2009, nous avons réhabilité déjà 233 centres de santé.
Oui, nous allons prendre d'abord une série d'auditeurs. Nous avons Dépol qui nous appelle à partir d'ici de Kinshasa. Bonjour Dépol. Dépol.
Bonjour madame Enchanté.
Oui, Dépol, vous êtes ici à Kinshasa. Quel état de lieu vous faites des infrastructures sanitaires?
Moi, je trouve qu'il y a bien des concessions qui se font en main. Il faudra au moins avoir un personnel bien qualifié et bien payé aussi. Parce qu'on voit des grèves partir par là, même à l'hôpital général. Donc, c'est une chose qui n'est pas vraiment très bonne pour un pays respecté comme le Congo. Et aussi, il faut des lois. S'il y en a, il faut une application au plus haut niveau.
Oui, des fois, vous faites allusion à la loi. Quel genre de loi vous...
Des lois, par exemple, comme vient de voter les États-Unis d'Amérique, concernant au moins la réduction de l'assurance santé pour toute la population. Dans ce sens-là, je voudrais au moins qu'il y ait, s'il y a des lois comme ça, une application au plus haut niveau pour que tous les peuples se retrouvent.
Donc, pour vous, Dépol, vous pensez qu'il faudrait d'abord qu'on ait un personnel assez équipé, compétent, et aussi, vous pensez qu'il serait mieux qu'il y ait aussi des lois qui puissent permettre l'accessibilité à tous aux soins de santé. Merci beaucoup, Dépol, d'avoir participé à notre émission. Nous avons aussi Justin qui est à Lubumbashi. Bonjour, Justin.
Bonjour, madame.
Justin, on vous écoute.
Oui, moi, je dirais tout simplement que le tas des hôpitaux ne laisse pas de durer. Partant, premièrement, de bâtiments et puis des qualités des soins, rien n'est positif.
Rien n'est positif, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, j'aimerais dire qu'il y a une négligence, l'État pouvait vraiment, étant donné que la santé ou les hôpitaux fait partie des 5 grandes préoccupations ou des 5 priorités de notre pays, l'État pouvait quand même améliorer les conditions de soins, parce que en partant des hôpitaux ici à Lubumbashi, bon, les conditions ne sont pas bonnes. Quand vous visitez les hôpitaux, vous allez vous rendre compte que même à partir d'ici à Lubumbashi, les malades qui dorment à même les sols, c'est qu'ils ne laissent pas à désirer vraiment. C'est ça ma préoccupation.
Oui, et ces malades, ce sont dans des hôpitaux privés ou publics? Le constat que vous avez fait.
Que ce soit dans des hôpitaux privés discours public, la situation, les constats demeurent les mêmes.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Justin, pour votre témoignage. Hein. Vous appelez à partir de Lubumbashi. Vous dites qu'il y a dans certains centres de santé, les hôpitaux que vous avez visités ou que vous avez vus, il y a des malades qui dorment à même le sol. Donc, ces infrastructures ne sont pas bien équipées. Il y a aussi Joe qui nous appelle de Mbandaka. Bonjour, Joe.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fatou.
Joe, on vous écoute.
Oui, madame, si je ne pleure pas parce que c'est la radio, mais si je vois l'état où se trouvent les installations sanitaires à Mbandaka, vraiment, c'est déplorable et regrettant. Je parle maintenant de l'hôpital général de référence de Wangata qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Et il n'y a pas ça, il y a l'odeur dans la mesure où les gardes malades jettent n'importe quoi, même les urines tout autour de l'hôpital, et ça dégage pas mal. Et c'est ce qui fait que les gens ont même peur de passer par devant cet hôpital. Une famille vraiment qui se respecte ne peut jamais accepter d'aller dans cet hôpital pour recevoir les soins.
Oui, et l'hôpital, c'est un hôpital privé ou public?
C'est un hôpital public et c'est l'hôpital général de référence de Wangata, le plus grand hôpital de la province, je peux dire.
Merci beaucoup, Joe, pour ce témoignage et d'avoir participé à cette émission. Monsieur Marcel Mukengeshaï, vous avez suivi les auditeurs, ils se plaignent. Par exemple, il y a un auditeur qui a dit que jusqu'à présent, à Lubumbashi, qu'est-ce qui est fait concernant la construction, parce que il dit qu'il a vu des malades qui dorment à même le sol par manque d'équipement dans ces hôpitaux.
C'est exact, madame. Je vais répondre en disant tout simplement que les besoins sont énormes. La planification, elle est progressive dans le sens qu'on tient compte des ressources disponibles aussi bien du gouvernement que des partenaires. Pour donner l'exemple de Lubumbashi, voyons, l'année passée, on a construit à Lubumbashi même le centre Mumbunda. Je crois que s'il est à Lubumbashi ville, donc l'État, le gouvernement a construit un centre de santé, le centre de santé de référence Mumbunda, qui est vraiment dans des conditions qu'il faut avec le matériel qu'il faut. Et donc, ça s'est fait progressivement et en tenant compte des ressources qui sont disponibles. Mmh. Et puis, d'autre part, c'est-à-dire qu'on n'a pas croisé les bras. Comme vous avez dit, la situation est complexe. Donc, c'est-à-dire on doit agir dans la solidarité, c'est-à-dire avec tous nos partenaires. Le Katanga, par exemple, il y a un partenaire important qui est en train, qui a fait qu'on a fait des états des lieux, qui est en train maintenant d'entrer dans la mise en œuvre de la réhabilitation et de l'équipement et même de la qualité du personnel dans le sens de formation des ressources humaines. Nous avons la Banque mondiale avec le projet congolais de PASS, le projet d'appui à la réhabilitation dans le secteur de la santé pour pratiquement 4 provinces.
Mmh. Donc, oui, et concernant alors à Wangata, où l'hôpital de référence se trouve dans un état assez avancé de délabrement, comme nous l'a dit Joe.
C'est ça. Pour Wangata, c'est la même réponse. C'est-à-dire Wangata est prise en charge aujourd'hui par la Banque mondiale, qui a planifié après un état des lieux. Parce que vous voyez, madame, le plus important aussi, c'est ça. C'est-à-dire, on a fait un état des lieux général. Pour savoir dans quelle situation ce que nous appelons délabré se trouve, ou ce qui est bien, ce qu'on dit bien se trouve. Cet état des lieux était attendu par le ministère de la Santé et tous ses partenaires. Nous avons aujourd'hui la situation de l'état des lieux et tous ces partenaires se sont engagés pour passer à la pousse dans le cadre de réhabilitation.
Merci beaucoup.
Parole aux auditeurs.
Déogracia nous appelle de Calémie. Bonjour Déogracia.
Oui, bonjour madame.
Oui,
bonjour.
Oui.
Directeur de l'Institut de Santé.
Déogracia, on vous écoute.
Oui, merci madame. Je voudrais un peu apporter cette question dans le sens de la suite. Compte tenu de l'état de délabrement de notre état général de l'Académie. Donc, de toute façon,
s'il vous plaît, Déogratia, est-ce que vous pouvez un peu vous déplacer pour que la qualité de son soit meilleure?
Certainement, je me déplace.
Oui. On vous écoute, Déogratia.
Ok, je pense que ici, c'est important.
Mm-hmm. Allez-y.
Ok. Ici, chez nous, en qualité, c'est grave. Je pense que ce qui est là, c'est qu'à l'hôpital, quand quelqu'un vient malade, il y a aussi des maladies qu'on appelle des maladies nosocomiales. Et quelqu'un peut trouver à l'hôpital l'état de la présence d'hôpital. Notre hôpital est vraiment un état de salle grise. Pas jusqu'à
l'état. En tout cas, Déogratia, vraiment, n'arrive pas à vous suivre correctement. On va essayer peut-être de vous recontacter plus tard, hein, parce que vraiment, on n'arrive pas à saisir ce que vous êtes en train de dire. Nous avons aussi Dominique qui est à Kananga. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour madame.
Oui, Dominique, on vous écoute.
Oui, je me suis juste fatigué pour ce qu'on fait, ce sujet qui est très important, en ce qui concerne l'état de nos hôpitaux. Par exemple, ici chez nous à Kananga, où personnellement moi j'habite, c'est vraiment l'état, vraiment est inquiétant pour ce qui concerne les hôpitaux. Mmh. Il faut seulement prendre l'exemple de l'hôpital général ici à Kananga. C'est cet hôpital qui est un grand hôpital de la ville, mais vous trouvez qu'il y a peut-être 4 latrines. Alors comment est-ce que les gens, les patients peuvent se surprendre avec 4 latrines? Alors l'état vraiment de délabrement est très avancé ici à Kananga pour ce qui concerne les hôpitaux.
Oui.
Donc nous voyons que le gouvernement ne prend pas en charge le problème qui concerne les infrastructures sanitaires. Donc c'est un problème très inquiétant pour notre pays.
Oui Dominique, mais à ce que je sache, l'hôpital général de référence de Kananga a reçu plusieurs fois des dons de réhabilitation. Est-ce que ça n'a pas été fait?
Oui madame, c'est bien, nous avons reçu des dons, mais qu'est-ce qu'on a fait de tous ces dons-là? On n'a rien vu de concret. Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter, mais on ne sait pas. Ça fait longtemps que l'Union européenne a financé ces travaux de réhabilitation de ces hôpitaux. Les laboratoires ici à Kananga, il est réhabilité à moitié, une partie réhabilitée et une partie qui n'est pas réhabilitée, vous vous en doutez, madame. Mmh.
Merci beaucoup Dominique pour ce témoignage et votre participation à cette émission sur les infrastructures de santé. Il y a aussi Wilfried qui est à Kindu, au Maniema. Bonjour Wilfried.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fatih.
Oui Wilfried, on vous écoute.
Ok, moi je voudrais juste suggérer au directeur du ministre de la Santé.
Mm-hmm.
D'ailleurs, ici, chez nous, à Kindu, les infrastructures, les hôpitaux ne sont pas bonnes.
Oui.
Et le premier exemple en est que l'hôpital général de référence de Kindu manque même une ambulance. C'est désolant, madame.
Oui.
Quand ils ont fait cette politique d'ouvrir de nouvelles zones de santé, ils n'ont pas su. Et en santé, c'est la planification qui commence d'abord.
Mmh.
Avant de passer de 315 zones de santé à 500, de 306 à 300 à 515, il devait d'abord doter des infrastructures aux nouvelles zones de santé avant de les créer. Nous avons même l'exemple aujourd'hui, comme notre pays veut changer de 11 provinces à 26, la difficulté qui est là en est que toutes les zones, les nouvelles provinces ne sont pas créées suite au manque des infrastructures.
Mmh.
Mais en santé, ils n'ont pas su faire ça.
Mmh. Hein? Et vous avez dit que vous voulez faire des propositions. Quelles sont ces propositions?
Ok, mes propositions, ils devaient d'abord ouvrir les zones de santé d'une manière progressive et non pas d'une manière concomitante.
Mmh. Hein? Ah, c'est ça, donc, votre proposition. Oui. Donc, vous pensez que ça devait se faire par étape, par palier, si on peut dire comme ça. Merci beaucoup, Wilfried, hein, pour votre témoignage. Vous dites qu'à Kindu, il n'y a presque rien. Les structures sont délabrées et vous pensez qu'il y a eu une mauvaise, si on peut dire, politique dans l'ouverture des zones de santé sans que les moyens n'aient pu suivre. Merci, Wilfried, d'avoir participé à cette émission. Docteur Marcel Kingishai, vous avez suivi nos auditeurs, est-ce que vous pouvez leur répondre? Vous avez annoncé au début que le laboratoire de Kananga a été réhabilité, mais un auditeur nous dit que c'est à moitié. Donc, ça soulève la question de savoir comment ça se passe le suivi lorsque dans l'exécution des travaux.
Par contre, les informations que nous avons et les rapports que nous avons des autorités médicales attitrées, c'est-à-dire les médecins inspecteurs provinciaux et sa suite, c'est Santé qui nous font des rapports. Et puis les partenaires avec qui nous travaillons, par exemple, dans le cas de Kananga, c'est l'OMS, qui sont basés sur place, et qui nous font ces rapports. Et la réhabilitation est là, il a reconnu que la réhabilitation est là, peut-être c'est l'appréciation. En termes d'un citoyen, c'est assez normal. Pour l'hôpital aussi, l'un des références,
il n'y a que quatre latrines.
Il y a que quatre latrines. Mais c'est en cours. Comme je vous ai dit là, c'est que ce que le ministère de la Santé a fait, c'est chercher plus avec le gouvernement, de travailler ensemble, de mobiliser ensemble les ressources propres et les ressources externes qui viennent de partenaires. Par exemple, pour Kananga, donc le café occidental, il y a l'Union européenne avec le FED 8 et bientôt le FED 9, le 9e FED, il y aura le 9e et le 10e FED. Donc, ils prennent en charge tous les aspects de réhabilitation, de renforcement des capacités et de disponibilisation de médicaments essentiels. Mais comme je vous l'ai dit, et comme il a souligné aussi notre collègue qui a parlé tout à l'heure, que ça se fait d'une manière progressive.
Donc, mais il est étonné par notre leader de King, où il dit comment est-ce qu'on peut ouvrir autant de zones de santé sans que les moyens ne puissent suivre.
Oui, pour les zones de santé, il y a eu un besoin. C'était un besoin, c'était de rapprocher les zones de santé de la population. Donc les structures de santé de la population, pour que cette population puisse accéder facilement à ces structures de santé, parce que c'est au niveau des centres de santé des hôpitaux où la vie se gagne ou se perd. Donc, pour un pays comme la RDC, 515 zones de santé, on ne peut pas dire que c'est excessif. Donc,
mais là, le problème, c'est les moyens. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas le nombre de zones de santé, c'est les moyens qui sont mis en place pour la population.
Le moyen, si vous suivez, je vous ai dit, nous avons 315 de zones de santé. On a 369 zones de santé aujourd'hui qui fonctionnent avec les hôpitaux généraux de référence. Nous avons 125 zones de santé et 126 zones de santé qui n'ont pas le président de référence. Dans la planification maintenant, que nous faisons, c'est d'arriver à tous ces niveaux-là, progressivement, à y mettre aussi.
Mais est-ce qu'il y a des dates, il y a un calendrier, c'est peut-être ça aussi la question. Est-ce que, par exemple, un auditeur, par exemple celui de Kindu, qui dit que jusqu'à présent, il ne voit pas, il n'y a pas d'amélioration, quand est-ce que vous serez à Kindu, ou bien ce qui est déjà fait à Kindu?
Oui, ce qui est déjà fait à Kindu est là aussi. Donc, Kindu, si notre ami est correct, ou bien s'il va aux sources autorisées, il va se rendre compte que Kindu, par exemple, pour 2009, il y a 11 centres de santé qui ont été réhabilités. Donc,
ça, ce sont les rapports des autorités
des autorités sanitaires et des partenaires, donc le PAS. Kindu, par exemple, dans les mois à venir, donc, il y aura des distributions, donc des moustiquaires imprégnés à travers toute la province. Donc, avec le financement PAS. Bien sûr, avec l'appui du gouvernement. Donc, Kindu va avoir.
Est-ce que vous avez une adresse où notre auditeur peut se rendre à Kindu pour voir de ses propres yeux le centre de santé qui a été réhabilité?
L'adresse, c'est aller à l'inspection provinciale de la santé.
Et qu'il pose des questions.
Il pose des questions
à ce niveau-là.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous êtes branchés sur Radio Okapi, c'est l'émission Parole aux auditeurs. Ce jeudi, votre émission s'intéresse au secteur de la santé, précisément aux infrastructures de santé, les hôpitaux, les cliniques, centres de santé publics et privés. Les questions, quel état de lieu faites-vous des infrastructures sanitaires dans vos milieux? Quelles propositions vous pouvez faire pour peut-être améliorer et savoir comment est-ce que ça peut changer pour pouvoir avoir accéder à des soins de qualité? Vous pouvez participer, comme l'a fait Deogracias Dominique Wilfried Justin. Vous avez bien sûr deux possibilités. Vous pouvez nous appeler au 081-99-77-800. Je répète, au 081-99-77-800 ou vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Radio Okapi s'écrit en un mot avec deux lettres O. Il y a déjà Serge qui est en ligne, il nous appelle de Guémena. Serge, bonjour.
Bonjour, Marie-Catalouma.
Oui, vous êtes stagiaire à l'hôpital de Boamanda, à Guémena. On vous écoute par rapport à ce secteur assez complexe qui est des infrastructures de santé.
Oui, merci. Je rectifie un peu. Je ne suis pas à Guémena, mais je suis à peu près 15 km de Guémena à l'hôpital. Il y a des références de Boamanda. C'est là où je passe mon stage.
Oui, on vous écoute. Quelle est la situation
oui,
là-bas?
Merci. Merci pour la question, Mme Chantal. Je ne sais pas si le ministre tient compte de la condition de vie des populations, puisque je l'ai écouté parler là-dessus de 369 zones de santé sur toute la République. Mais ce sont des zones de santé qui ne répondent que des noms. Ils ne sont pas dignes de les appeler zones de santé, puisqu'ils ils n'ont pas les conditions appropriées pour les soins des malades de Marie-Cata Lumba.
Oui.
Bon, je peux donner l'exemple. Je peux dire qu'à l'Équateur, nous n'avons que trois institutions qui respectent les normes de la santé. Il y a l'hôpital, il y a des références de Boamanda, là où je suis, et Tarawa et situé Sandala. C'est là où que les malades ont des soins appropriés. Pourquoi je dis ça? Il y a certaines zones de santé qui ne répondent que par les noms. Le malade vient, on le consulte, on lui donne l'ordonnance, il va acheter le médicament à la cité, s'il n'en trouve pas, il n'en trouve pas compte, quelques jours après, les maladies décèdent. Mais ici, là où nous sommes, Marie-Cata Lumba, je vous rappelle qu'il y a une très bonne suivi des malades. Quand un malade vient, on le consulte.
Serge, nous parlons, Serge, s'il vous plaît, nous parlons aujourd'hui des infrastructures. C'est vrai qu'il est difficile de pouvoir faire une démarcation entre les infrastructures et le personnel soignant et les activités même, donc comment se donnent les soins. Mais nous parlons aujourd'hui, nous essayons aujourd'hui de parler des infrastructures. Est-ce qu'à l'hôpital général de référence de Boamanda, est-ce que les bâtiments sont dans des bonnes conditions? Est-ce que ça a été réhabilité ou bien comment ça se passe? Comment ça se présente?
Oui, merci beaucoup, Katalima. Je vous dis que les bâtiments sont en bon état, en bon uniforme. La société CDI qui prend en charge l'hôpital général de référence de Boamanda est en train de réhabiliter l'hôpital qui répond à toutes les conditions dignes de son nom. Il y a l'électricité 24/7/24, il y a de l'eau qui coule sur les robinets 24/7/24, les malades sont logés dans de bonnes conditions sur un lit digne de son nom. Quand je parle digne de son nom, il y a les matelas et ainsi de suite, et ce sont des capuchis bien.
Et on voudrait savoir, Serge, c'est un hôpital public ou bien c'est privé?
Non, c'est un hôpital public. Tous les malades de toutes les catégories.
Merci beaucoup, Serge, pour votre témoignage. Il faudra aussi préciser que nous avons comme invité le directeur de cabinet du ministre de la Santé et non le ministre en personne. Merci beaucoup, Serge. Mais on voudrait quand même avoir une petite précision. Est-ce que cet hôpital a toujours été comme ça ou bien c'est après, ça avait été délabré pendant les moments de guerre et puis on a réhabilité ou bien ça a toujours été dans ces conditions-là?
Non, l'hôpital garde les mêmes conditions depuis sa création, Marie-Cata Lumba. On a pas besoin à donner des reproches à cet hôpital
qui garde
un peu ses qualités. En tout cas, c'est depuis la création de cet hôpital.
Merci beaucoup, Serge, pour votre participation à cette émission et surtout votre témoignage. Nous allons dans la province du Maniema où se trouve Augustin. Bonjour, Augustin.
Bonjour, Madame Chantal.
Oui, votre témoignage.
Oui, je suis ravi de parler d'un bon sujet qui est la réhabilitation des hôpitaux dans notre pays. Nous sommes au Maniema, nous avons un hôpital général de référence qui est appuyé par un organisme international qu'on appelle Merlin. Cet organisme international équipe l'hôpital et a...
Augustin, est-ce que vous pouvez d'abord vous éloigner de votre poste récepteur?
Oui, je sais, madame, je me suis éloigné de mon poste récepteur.
Alors, on vous pouvez continuer.
Je dis qu'il y a un hôpital général ici qui est appelé par un organisme international qu'on appelle Merlin. Cet organisme appuie l'hôpital avec la réhabilitation, les médicaments, les lits. Mais madame, quand vous arrivez à cet hôpital, c'est une cacophonie. Les malades n'ont pas leurs droits, alors que la santé va de pair avec les droits de quelqu'un.
Oui, je ne sais pas,
vous vous rendez compte, il manque même une place pour dormir. Il y a l'abondance des malades, les places sont trop petites. Alors, quand les dirigeants parlent de l'habitation des hôpitaux, et quand on réhabilite un hôpital, on peut aussi reconstruire un hôpital. Il faut qu'on agrandisse les bâtiments des hôpitaux ou d'un hôpital qu'on va réhabiliter.
Mm-hmm.
Il a aussi parlé de l'inspection de Kindou. Moi, je suis à Kindou. À Kindou, dans l'inspection provinciale de Kindou, on nous a fait construire des petits coques là-bas, alors qu'il y a un grand espace, on pouvait quand même construire un immeuble à deux ou trois niveaux. On a construit quatre maisons de différents bureaux pour la zone de santé de Kindou.
Donc,
alors, je pense que les gens n'ont pas la bonne volonté pour réhabiliter les hôpitaux ou les inspections des hôpitaux.
Merci beaucoup Augustin pour votre témoignage. Vous dites qu'effectivement on a construit quelque chose à Kindou, mais que c'est trop petit, mais pourtant il y a assez d'espace pour construire des immeubles, des hôpitaux de référence avec des étages qui peuvent accueillir l'ensemble des malades de Kindou. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous allons au centre du pays, à Kananga, au Kasaï occidental, se trouve Émile. Bonjour Émile.
Bonjour.
Et on vous écoute, Émile.
Oui, c'est juste pour dire que, à Kananga, les hôpitaux, tels que vous avez dit, se trouvent dans un état de délabrement total. Ici, chez nous, parce que nous ne pouvons pas seulement parler des hôpitaux publics, mais des zones de santé privées. Vous allez trouver dans ces zones donc un état de délabrement total. Les hospitaliers, donc les gens qui viennent pour être internés dans l'hôpital, vous allez trouver même la maternité qui est à côté, les femmes qui accouchent dans la même chambre qu'un homme qui est opéré, tout ça. Mais je ne pense pas que ce que dit le directeur des cabinets du ministre, soit disant qu'ils ont déversé l'argent pour la réhabilitation des hôpitaux ici chez nous à Kananga, l'hôpital de référence générale. Jusque-là, quand même, ça avait déjà commencé, mais à un certain moment, ça s'est arrêté. L'hôpital, vraiment, est toujours dans un état de délabrement total.
Merci beaucoup, Émile, pour votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir participé à partir de Kananga au Kasaï occidental. Vous nous suivez sur 93.0 FM.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Monsieur le directeur de cabinet du ministre, vous avez suivi nos auditeurs, à qui juste après on pourra prendre Ndeke qui nous appelle à partir de Kinshasa, et aussi docteur Andy qui sont déjà en ligne. On va les prendre tout juste après votre intervention, votre réaction.
Merci beaucoup, madame. Donc, je commence avec Maniema pour dire que, en fait, il a reconnu qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de l'hôpital général de référence qui a été réhabilité par un partenaire merlin. Comme vous le savez aussi, l'utilisation des services, ce qu'il a dit, c'est que l'utilisation des services a beaucoup augmenté.
Oui, à tel point. L'augmentation de la population.
De la population. Alors, il faut aussi se dire que l'hôpital a été réhabilité à un certain moment. Donc, ce moment-là, si on rentre en arrière, c'était le moment où il y avait des urgences à Kindou, où la population n'était pas très intense. Et maintenant, la population revient avec la paix. C'est tout à fait normal que l'état des lieux, les gens qui sont passés par là, on va les retrouver tous, on a les résultats des états des lieux, nous allons les retrouver avec les médecins inspecteurs de l'ensemble des provinces ce mois de février, ici à Kinshasa. Pour faire maintenant la planification à partir des données réelles qui ont été identifiées après cet état des lieux.
Souvent on dit gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'à l'époque, vous n'avez pas prévu qu'il y aurait l'accroissement de la population, que la demande sera plus forte avec le retour de la paix, il y aurait des personnes, des mouvements de population qui retournent dans leur lieu d'origine. Est-ce que ce n'était pas planifié à l'époque?
Bon, à l'époque, ça pouvait être planifié, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est que l'urgence.
Mm-hmm.
L'urgence, c'est une situation où on se retrouve dépassé complètement à cause des événements qui se présentent.
Mm-hmm.
À partir de ce moment-là, on essaie d'agir de manière urgente pour pallier à la situation. Mais le durable doit se venir après l'état des lieux. Je crois que c'est ce qui s'est passé.
C'est aussi la réponse que vous donnez. En fait, il y a un film, je pense, où un auditeur a dit qu'on a construit, mais c'était assez restreint. C'était pas assez aisé.
C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, le gouvernement, le ministère a cette préoccupation sur pourquoi les gens sont descendus sur le terrain pour faire cet état des lieux.
Mmh.
Et
au mois de février,
ce mois de février, on se retrouve avec tous les acteurs du terrain, mmh, les médecins instructeurs et les différents partenaires pour dire voilà la situation aujourd'hui sur le terrain et comment on planifie pour arriver à corriger.
Mmh.
Ce travail est attendu. Nous attendons, donc il y a des invitations qui sont déjà faites et être lancées pour que les médecins instructeurs et les ministres de la Convention de santé puissent revenir ici à Kinshasa,
mmh,
pour faire cet état des lieux.
Oui, nous prenons directement docteur Andy, il est de l'hôpital, il est à Mbandaka. Le CHI, bonjour docteur Andy.
Bonjour madame, bonjour.
Oui docteur, on vous écoute.
Oui, je voulais juste parler au confrère directeur de cabinet. Il a parlé de 233 centres écrits et réhabilités. La planification avait prévu combien de centres par province. Ils suivent quelle planification? Et puis, je voudrais bien savoir, dans le budget actuel, combien ils ont prévu pour les hôpitaux? C'est quand vous parlez de réhabilitation, généralement, il s'agit que d'une réhabilitation physique basée sur une nouvelle couche de peinture. Et à l'intérieur, quand on dit on est équipé, parfois ce sont des équipements qui n'ont rien à voir avec le niveau de l'hôpital. C'est pourquoi je voudrais bien qu'ils me disent, quand on parle d'un centre de santé, quel est l'équipement qu'il faut? Quand il s'agit d'un hôpital de référence, quel est l'équipement qu'on entend? Donc le plateau technique qui correspond, comme vous dites, l'équipement. Puisque souvent c'est du simple saupoudrage, vous arrivez dans ces hôpitaux soi-disant réhabilités et vous ne trouvez rien qui ne correspond à vos attentes. Et maintenant on commence à menacer les gestionnaires, faites comme si tout était là. Ah, donc lui demander, quand lui il est malade, est-ce qu'il se présente dans n'importe quel centre de santé ou bien il a du choix à faire et sur base de quoi il peut appeler un hôpital. Voilà, c'est ma contribution, madame.
Merci beaucoup, docteur Andy. On va vous garder en ligne parce que le directeur de cabinet va essayer de répondre à vos questions qui sont assez préoccupantes. Docteur Marcel, pouvez-vous répondre à docteur Andy?
Merci beaucoup, madame. J'ai dit qu'on a construit en 2009 233 centres de santé.
Mm-hmm.
Je vous ai...
Oui.
On a construit 233 centres de santé et je voulais dénoncer la situation des laboratoires.
Oui.
Bon. Je viens de vous dire aussi clairement que le ministère de la Santé a la préoccupation de se dire qu'est-ce qui doit être fait après la situation d'urgence que nous avons connue. Donc, il y a les états des lieux qui sont descendus, qui sont passés partout.
Oui.
À partir de ces états des lieux, nous avons des résultats. Donc, on va se retrouver avec les médecins inspecteurs et leur staff, ainsi que tous les partenaires à Kinshasa en février, je vous l'ai dit.
Oui.
Et maintenant, par rapport à la réhabilitation, c'est une réhabilitation physique et fonctionnelle. Donc, on ne peut pas se contenter seulement de la réhabilitation physique. Donc, c'est-à-dire, on fait la rééducation physique, ça signifie, on voit un rafraîchissement de mur, on tolle s'il faut toller, et puis s'il faut changer de tôle, on fait. Et puis, il y a la rééducation fonctionnelle. La rééducation fonctionnelle, c'est pour rendre le centre de santé fonctionnel. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faudrait amener les équipements. Il faudrait que les médicaments puissent être disponibles. La situation qu'ils ont connue en Mbandaka, peut-être qu'il se réfère à ça, c'est dû au fait que le partenaire qui était là, le PAS, avec le Fonds Banque Mondiale, ils ont eu des problèmes de commandes. Mais aujourd'hui, donc pendant que je vous parle, le PAS a déjà eu tout ce qu'il y a comme médicaments pour l'ensemble des quatre provinces qui sont,
dans le programme.
Qui sont dans le programme. pour les équipements qui sont pour l'ensemble des quatre provinces qui sont dans le programme. Je vais parler même de moustiquaires imprégnés, tout ça, c'est...
Mais en fait, le docteur Andy voudrait aussi avoir des précisions pour un centre de santé réhabilité.
Oui.
Qu'est-ce qu'on, par exemple, concernant les équipements, qu'est-ce qu'on donne? Deux lits, je sais pas, un microscope, qu'est-ce qui est donné dans un centre de santé quand on parle qu'il a été appuyé par des équipements? C'est quoi, en fait, ce que vous donnez?
D'accord, un centre de santé, c'est un niveau.
Oui.
C'est un niveau vraiment le plus périphérique possible.
Mm-hmm. Hein, dans l'air de santé.
Dans l'air de santé, où la population entre en contact avec les structures de santé.
Oui.
À ce niveau-là, on a besoin de poser des diagnostics du malade qui vient. Donc, c'est normal qu'il puisse y avoir des microscopes au niveau du centre de santé. À ce niveau-là, il faudrait que le malade qui arrive, qu'on puisse l'examiner. Donc, il faudrait qu'il y ait une table d'examen. À ce niveau-là, il faudrait qu'on puisse relever les signes vitaux pour le malade, qu'on puisse prendre la température, qu'on puisse prendre la tension, c'est ça des problèmes. Tous ces équipements-là, pour les diagnostics, doivent être là.
Et c'est ce que vous donnez dans les centres de santé.
C'est ce qu'on donne dans les centres de santé. Nous veillons à ce que ça puisse être donné comme ça. Et puis, en plus de ça, donc, il faudrait qu'il y ait disponibilité de médicaments. Donc, le centre de santé, ça, donc, quand le malade arrive, entre en contact avec cette structure périphérique, il doit être examiné, il faut qu'on lui pose un diagnostic à ce niveau-là, par le personnel qui est là, avant de l'orienter, si cela nécessite une orientation. Si vraiment des examens ou bien le traitement est laborieux, il faut le référer au centre, à l'hôpital de référence.
Mm-hmm.
Donc, il y a ça. Il faut bien sûr qu'il faut le renforcement des capacités, c'est-à-dire qu'il faut dire que les personnes qui se trouvent là-bas puissent être aussi formées. Donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la réhabilitation fonctionnelle.
Il y a aussi posé la question sur la planification. Qu'est-ce qui est planifié? Qu'est-ce qui sera fait?
Ça, je vais me répéter encore plusieurs fois en disant... je vais me répéter en disant la situation a été faite. En rapport, on sortait la situation d'urgence. On a essayé de faire ce qu'il fallait faire, compte tenu de cette situation aujourd'hui, cette situation-là. Les gens sont descendus sur le terrain parce que le ministère de la Santé, avec tous les partenaires, se sont dit qu'il faudrait qu'on sache quelle est la situation réelle. On a fait ce qu'on appelle l'état des lieux.
Et vous allez le faire encore au mois de février.
Au mois de février, c'est-à-dire on va être avec tous ces partenaires, donc tous les acteurs principaux, qui fait ça dans un atelier. Pour voir maintenant comment est-ce qu'on va planifier pour bien soit pour.
Docteur Andy qui est toujours en ligne. Oui, donc là, vous avez suivi la réponse du directeur de cabinet du ministre.
Oui, je reste sur ma soeur, parce que j'aurais voulu qu'à la fin de cet état de lieu, qu'ils nous disent, aujourd'hui, en RDC, nous avons autant d'hôpitaux fonctionnels qui méritent cette appellation, et voilà l'effort qui reste à faire. Or, apparemment, il n'y a que la clinique Ngalé, mais qui peut être réellement un hôpital aujourd'hui. Toutes nos autorités vont se faire soigner en Afrique du Sud, dans des hôpitaux périphériques. Mais ici, chez nous, je ne sais pas combien, après l'état de lieu, il peut trouver que tel hôpital est en état fonctionnel, tel hôpital ne l'est pas. C'est un peu ça mon inquiétude, puisque ces états de lieu, on le fait chaque année, et on programme, on propose, et puis à la fin, il n'y a rien qui se fait. Et on répond toujours comme ça, dans des situations tout à fait malheureuses pour les acteurs de terrain.
Merci beaucoup, docteur Andy, pour votre participation à cette émission. Le directeur de cabinet du ministre pourra, j'espère, à la fin de cet état de lieu du mois de février, nous donner encore plus d'informations là-dessus, parce qu'apparemment, on a l'impression que plusieurs personnes, surtout ceux qui ont un peu de moyens quand elles sont malades, elles préfèrent aller se faire soigner en dehors du pays. Est-ce que c'est parce que les infrastructures ne sont pas bonnes, est-ce qu'elles ne sont pas équipées? Donc, tout ça sont des questions qu'on se pose. Merci beaucoup, docteur Andy, d'avoir participé à cette émission. Nous avons aussi une Deke qui nous appelle d'ici de Kinshasa. Bonjour, Deke.
Madame.
Oui, on vous écoute.
Bon, je dois dire que l'état des infrastructures sanitaires dans notre pays respecte l'état de l'état congolais. Donc, c'est de l'utopie de croire que les infrastructures sanitaires dans notre pays peuvent être dans de bonnes conditions alors que l'état lui-même est dans de mauvaises conditions. Donc, je sais que aux environs des années 80, on avait un bon système sanitaire, avec, vous rappelez, des systèmes de centres de santé qu'on appelait SARU, qui s'occupait un peu de la santé de la population, mais plus l'État congolais allait dans la dégringolade, plus également les infrastructures ont connu des difficultés, ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, nous assistons à une situation de délabrement. Et je pense que la solution, ce n'est pas la réhabilitation, c'est la construction. Parce que plus la population augmente, on ne doit pas réhabiliter ce qui a existé, mais plutôt construire par rapport à la proportion de l'augmentation de la population.
Merci beaucoup, Deke, pour votre apport. Pour vous, pensez qu'il faudrait tout simplement construire et non réhabiliter au regard des besoins de la population. Nous avons aussi Axel qui nous appelle de Kinzo, Maïma. Bonjour, Axel.
Bonjour Marie-Chantal Lumba, je suis en ligne.
Oui, quelles sont les propositions par rapport à la situation des infrastructures de santé en RDC?
Merci Marie-Chantal de m'avoir accordé la parole. Je salue tous les auditeurs qui nous écoutent la radio Capi. Je remercie le ministre pour
le directeur de cabinet du ministre d'être
présent à la radio Capi. Sinon, je ne voudrais pas les prendre par les mots. Sinon, je reviens pour quelques mots qu'il a dit. La situation de la santé au niveau de notre pays est complexe. Ça, c'est vrai. Mais nous sommes en train de nous interroger sur un aspect. Il semblerait que le gouvernement est en train de focaliser toutes ces démarches au niveau de quelques entités et à nous bien aller. Parce que moi, j'interviens à partir du Maïma. Des amis sont déjà intervenus. Il y a M. Wilfried et M. Augustin. Alors, tout ce que mes prédécesseurs ont dit, vraiment, restez valable et plausible. Alors, je reviens pour dire ceci. Dans notre province, le Maïma, il y a jusqu'à aujourd'hui 18 zones de santé, dont 8 anciennement reconnues et 10 qui ont été créées récemment. Parmi ces 18 zones de santé, il n'y a que ces 8 qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais les 10 autres qui sont cantonnés à l'intérieur de la province n'ont pas tellement les moyens de fonctionner. Parce que le directeur a parlé de réhabilitation fonctionnelle, quelque chose comme ça. S'il faut parler de réhabilitation fonctionnelle, s'il faut créer les infrastructures sanitaires, c'est une bonne chose parce que je me rappelle à la conférence de Al-Mayata où on supposait que tous les Congolais seraient amusés d'accéder au centre de santé privé. C'est une bonne chose. Notre pays a souscrit à cela. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons au Maïma, les 10 structures, les 10 zones de santé que je viens de vous dire tout à l'heure, n'ont pas d'équipement, n'ont pas d'infrastructure.
Oui. Et Axel, quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour améliorer quand même?
J'en arrive, madame. J'en arrive, Chantal.
Parce que nous avons aussi d'autres auditeurs qui sont en ligne, qui attendent aussi de pouvoir...
Parce que c'est quoi? Je voudrais que le gouvernement focalise ses actions au niveau de la province. Je voudrais que le gouvernement puisse... Ce n'est pas parce qu'il faut seulement se limiter aux états des lieux, mais il faudra concrétiser les actions d'aide et de réhabilitation au niveau de la province et au niveau des autres zones de santé qui n'ont pas de moyens. Je vous assure, madame, il n'y a que ces 8 zones de santé qui ont quelques moyens de fonctionnement. Tenez ceci.
Oui.
Vous terminez à l'ISTEM. On va vous envoyer à Lubutu, à Pouya. Vous ne pouvez pas accepter parce qu'il n'y a pas d'accessibilité, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas.
Oui.
Tout ça. Alors, il faudrait que le gouvernement puisse penser à la réalisation, pas plutôt au financement, à l'appui, au soutien à toutes ces zones de santé, madame.
Oui. Merci beaucoup à Axel pour avoir participé à cette émission. Vous avez fait des propositions. Vous pensez que le gouvernement devrait vraiment appuyer ces zones de santé qui ont été nouvellement créées, si on peut dire ça comme ça. Il y a aussi Sylvain qui nous appelle de la province orientale. Il est à Bounia. Bonjour Sylvain. C'est Christian. Christian, vous nous appelez de Moba.
Oui.
Mais nous avons aussi Sylvain qui nous appelle de Bounia. Donc après Christian, nous allons prendre Sylvain. Christian, on vous écoute.
Ah oui. D'abord, je vous souhaite une bonne année de Moubis.
Oui. Merci.
Et ma question est la suivante. Je voudrais d'abord demander au directeur du cabinet du ministre de la Santé de nous donner précisément le nombre de centres de santé ou des hôpitaux réhabilités ici dans le Katanga Nord, parce que jusqu'à présent, ici, on ne voit rien.
Mm-hmm.
Et puis, ma deuxième question est la suivante. Ici, à l'hôpital général de référence de MOBA, mais nous travaillons ici avec une équipe pour la chirurgie de l'épreu, et on a été obligé d'interner les malades ici au Catal. Mais il faut voir dans quelles conditions les malades vivent ici. Il y a des malades qui dorment à même le sol, et puis les portes n'ont pas de... Les portes ne sont pas bien protégées, les gens entrent dans les chambres des malades. On ne sait pas ce que le ministre pense de tout ça. On doit chaque fois attendre que les ONG particulières viennent réhabiliter les centres de santé, de faire quelque chose, mais le gouvernement en soi ne fait absolument rien.
Oui.
Je veux que le ministre puisse nous éclairer.
Oui, par rapport à ça. Merci beaucoup, Christian. Hein, le directeur de cabinet a suivi vos deux questions. Nous prenons Sylvain. Sylvain, on vous écoute, en bref.
Oui, merci. En bref, comme vous l'avez dit, je pense que vous parlez des conditions des différentes infrastructures sanitaires au Congo.
Oui.
Et vos auditeurs ont déjà atteint dans les autres territoires. Je n'ai jamais été dans les autres territoires du pays. Mais pour Abunia, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on puisse parler d'un hôpital général de référence. Étant donné que même s'il y a eu une réflexion, moi je me dis que cette réflexion n'est pas une chose qui a été souhaitée. Puisque en fait, madame, tenez bien, si vous voyez dans certains pays tels que l'Ouganda, à Arua, quand on parle d'un hôpital de référence, c'est vraiment un hôpital de référence qui a des infrastructures. Votre invité venait de le dire. Je pense qu'il faudrait un peu qu'on puisse même tenir compte du fonctionnement de l'hôpital, tel que les outillages. Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, les hôpitaux de référence sont devenus, disons, les hôpitaux de référence sont devenus des éléments de crainte.
Mmh.
On a peur d'aller se faire soigner là-bas, étant donné que des conditions, des conditions d'habitation ne sont pas favorables.
Mmh.
Je pense qu'il faudrait que l'on puisse mettre suffisamment de moyens afin que ces hôpitaux puissent encore égorger des confiances de la population.
Merci.
Qui doivent en réalité poursuivre des soins de santé
dans ces entités. Merci beaucoup, Sylvain, pour votre rapport. Monsieur le directeur de cabinet, vous avez suivi nos auditeurs.
Oui.
On a l'impression que, en tout cas, on a pris les auditeurs au hasard, mais le reflet que vraiment les infrastructures sanitaires au Congo laissent à désirer.
C'est exact, madame. Je vois que peut-être je vais rappeler rapidement les périodes pour que les gens peut-être comprennent.
Mm-hmm. Et surtout quand ils apprennent, par exemple, qu'on doit réhabiliter un hôpital ici, je pense que c'est 50 000 l'hôpital qui est en train d'être réhabilité, et quand ils voient que de l'autre côté, ils n'ont pas assez de ça n'a pas encore commencé, ils se posent des questions. Est-ce que vous pouvez les éclairer hein?
Je vais éclairer. Je vais parler rapidement de trois périodes, c'est-à-dire... Il y a quelqu'un qui a parlé d'Almata, c'est-à-dire c'est une conférence internationale qui a eu lieu à l'URSS sur la situation de déséquilibre au niveau sanitaire dans le monde, entre les pays développés et les pays en développement. Et à partir de cette situation-là, de cette conférence, on a adopté une stratégie, c'est la stratégie des soins de santé primaires. Donc pour amener les soins de santé là où les gens vivent et travaillent, donc c'est ça les soins de santé primaires. La République démocratique du Congo a été un modèle pour la mise en œuvre des soins de santé primaires.
Mm-hmm.
Donc, ça a continué ainsi jusque vers les années 88-90.
Surtout sur le plan administratif, comme c'est structuré.
C'était structuré. Donc, c'était un modèle qui a été même exporté ailleurs. Et les gens sont venus pour apprendre ici. Et si les amis qui sont, par exemple, au Katanga, ils savent que les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir se faire soigner à Lubumbashi, donc dans les hôpitaux.
L'état actuel, maintenant.
Dans l'état actuel, c'est pour
que les gens comprennent. Que nous n'avons pas beaucoup de temps.
Pour que les gens comprennent qu'après,
les
années 90, tout ça, il y a eu des situations que la population, que le peuple n'a pas...
Pas
ignoré. Mm-hmm. Il y a eu des guerres, il y a eu des pillages, il y a eu des conflits qui ont eu pour conséquence la destruction pratiquement de l'outil. Donc, il faut maintenant reconstruire, il faut rebâtir, il faut la confiance. Cette confiance, tous les partenaires attendaient, qu'il y ait des institutions élues.
Mm-hmm.
Donc, on est dans cette situation-là. Et maintenant, je leur dis, les efforts sont en train d'être faits pour arriver à corriger, à bâtir donc, le système.
Donc, les besoins sont énormes. Donc, il faut commencer. Commencer et évoluer.
Quelque part, évoluer.
Mm-hmm. Et c'est ça la réponse. C'est pourquoi j'ai dit, nous tenons beaucoup. Cet état de lieu, ce n'est pas une complaisance. Hein. C'est parce qu'on est conscient de dire, OK, la situation, elle n'est pas bonne. Après tous les rapports que nous avons, mais il faudrait maintenant qu'on se retrouve ensemble, partenaires, prestataires, donc politiques, qu'on se retrouve pour dire, OK, comment on planifie pour la province de Kinshasa? Comment on planifie pour, étant donné la situation spécifique de chaque province? Et vous voulez maintenant suivre la mise en œuvre ensemble avec les partenaires.
Mais est-ce que vous commencez, vous allez quand même expliquer cela aux auditeurs? Parce que, apparemment, ils ne savent pas quand est-ce que ça commence, quand est-ce que. Est-ce qu'il y a.
Est-ce que vous avez
communicationnel?
Nous sommes dans le secteur de la santé. Je vous ai dit que les invitations sont parties.
Oui.
Ça signifie les autorités sanitaires. Les messages d'instructeurs, les ministres des provinces de santé, ils sont déjà au parfum. Ils savent qu'en février, nous devons nous retrouver ici, avec les différents acteurs. Tous les partenaires qui agissent dans le secteur de santé, où ils se trouvent,
ils seront là.
Parce qu'eux aussi, on va leur demander pour dire, OK, vous avez eu une suite de financement.
Allô? Il ne répond pas.
Nous disons merci au docteur Martin Moukengissé d'avoir répondu à notre invitation et nous disons surtout merci aux auditeurs pour leur participation active. Demain, nous aurons un autre rendez-vous avec Parole aux auditeurs. Nous allons parler des personnes vivant avec handicap. Il y a quelques semaines, il s'est tenu un conseil national qui a abouti à l'élaboration d'une charte africaine pour la protection des personnes vivant avec handicap. Pour en parler, nous avons deux questions. Quelle est la place des personnes vivant avec handicap dans la société? Comment les encadrer? Et pour les utiliser, nous disons merci à les rendus plutôt. Nous disons merci à Pierre Lamengi, à Kissim Poutou et à Jean-Noël Mokondo, sans oublier Nicole Ngaka.